Apatride, le mot claque comme une malédiction ou la promesse d'un malheur. Revenant sur les tragédies du siècle, René Cassin faisait inscrire dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 que « nul ne peut être privé arbitrairement de sa nationalité ». Mais ce texte, on le sait, n'a pas de valeur contraignante. Le débat ressurgit depuis quelques semaines en France autour du vote d'une loi constitutionnelle qui prévoit, dont l'article 2 prévoit, de déchoir de leur nationalité les individus condamnés pour terrorisme. Elle a été votée, vous en souvenez, le 9 février dernier, de justesse par les députés à l'Assemblée nationale, mais un amendement au Sénat le 9 mars, qui la réserve aux citoyens disposant d'une double nationalité, rend du coup peu probable son inscription dans la Constitution. N'empêche que ces discussions assez vives ont fait ressurgir le spectre des centaines de milliers d'âmes errantes qui, dans les années 20 et 30, ont été les victimes, mais aussi le remords, pourrait-on dire, de l'Europe des nations. Alors, qu'est-ce qu'un apatride? D'où vient le mot? Quand est-il né? À quel moment la question a surgi dans l'histoire de façon plus ou moins massive? Qui sont tous ces apatrides dont le destin nous hante au point que nous nous rébellions contre l'idée qu'on pourrait en fabriquer de nouveau ici même en France? Qui sont ces hommes, ces femmes, ces enfants peut-être? Pourquoi ont-ils été privés de droits? De quels droits au juste? Quand est-ce que les juristes ont-ils résolu de s'attaquer à ce problème? Voilà les questions que nous allons essayer de démêler ce soir avec l'aide de quatre spécialistes. Zovinar Kevonian, vous êtes maître de conférence à Paris 10 Nanterre, spécialiste de relations internationales, mais notamment des questions juridiques et humanitaires. Vous avez publié aux publications de la Sorbonne en 2004 un ouvrage intitulé « Réfugiés et diplomatie humanitaire ». Mais vous êtes aussi, je dois l'ajouter, membre du comité scientifique de l'OFPRA, c'est-à-dire l'Office français de protection des réfugiés, et on l'oublie souvent, le A signifie « et des apatrides ». Guillaume Métayer, vous êtes chargé de recherche au CNRS, Centre d'études de langue et de littérature française. Vous êtes ici l'homme de Paris 4, Sorbonne. Et vous êtes spécialiste donc de littérature. Vous avez publié en 2011 chez Flammarion un ouvrage remarqué sur Nietzsche et Voltaire. Et vous êtes aussi par ailleurs traducteur du hongrois. Et vous apporterez le point de vue littéraire peut-être dans ce débat parfois très juridique. Jean-Clément Martin, vous avez longtemps enseigné l'histoire de la Révolution française dans cette maison, la Sorbonne, mais du côté de Paris 1. Vous avez dirigé aussi l'Institut d'Histoire de la Révolution française, dont on a beaucoup parlé un peu tristement ces temps-ci. Vous avez publié de nombreux livres sur la Révolution française, et même sur la contre-révolution et sur la Vendée, on s'en souvient, et tout récemment, un ouvrage chez Perrin sur Robespierre. Yann Rivière, je termine par vous, car nous allons commencer avec vous. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS, où vous enseignez la société romaine antique et notamment les aspects juridiques, droit, rite, institution. Vous avez vous aussi publié de nombreux livres, dont le plus récent chez Perrin également, est Germanicus. Alors on va commencer par Rome, qui a l'esprit si juridique, la Rome antique, et qui a tant d'égards et sources de notre droit. Est-ce qu'à Rome, le mot apatride existe? Est-ce qu'il a un sens? Est-ce que la notion même a un sens, Yann Rivière?
Il n'y a pas de terme latin pour apatride. Donc, l'absence du mot peut inquiéter ou questionner. Il existe bien en grec apolis, au pluriel apolides, et ce terme fait à deux reprises son intrusion, dans le corpus Iuris Civilis. Il a été utilisé, en effet, ce terme grec, par des Romains pour rendre compte d'une situation sur laquelle je pourrais revenir. Mais enfin, le mot apatride n'existe pas. Et l'on pourrait dire que les apatrides constituent une sorte de point aveugle dans l'histoire du droit romain. Et c'est un peu une tautologie dans la mesure où le droit ne peut pas se saisir de ce qui n'est rien. Dans son monument, le droit pénal romain, le grand juriste allemand de la fin du XIXe siècle essaye en quelques pages de rendre compte de la déchéance de citoyenneté, car il y a bien une procédure sur laquelle je vais pouvoir revenir, même si la réalité à laquelle elle conduit nous échappe quelque peu. Mommsen disait, sans doute, il n'y a aucune source pour le dire, les apatrides étaient-ils, au commencement de la cité, l'équivalent des bêtes sauvages ou des esclaves sans maître. Bien, ce n'est qu'une supposition et aucun texte ancien ne vient le dire. Mais enfin, les Romains se sont quand même interrogés sur ce qu'était la déchéance de citoyenneté. Ils ont une expression, amitere civitatem, employée de nombreuses reprises par Cicéron pour la contredire, donc ôter la cité, la citoyenneté, hein, ou encore une expression un peu étrange sur laquelle je pourrais revenir à propos de l'époque impériale, qui est la diminutio capitis, qui est donc la diminution du caput, le mot qui désigne à la fois la tête, ce qu'on enlève donc en cas d'exécution capitale, et l'appartenance civique, donc la citoyenneté. Deux circonstances en particulier ont donc permis aux juristes romains de s'interroger sur la déchéance de citoyenneté. D'une part, la livraison du général à l'ennemi, lorsque la cité elle-même voulait se défaire de l'engagement donné par ce général à l'ennemi, c'est le fameux épisode des fourches caudines, ou encore celui de Hostilius Mancinus en 136 avant Jésus-Christ, sous les murs de Numance, premier cas. Deuxième cas, surtout, plus répandu, plus général, on peut l'imaginer, celui du bannissement, donc de l'interdiction de l'eau et du feu, qui s'accompagnait d'une déchéance civique et donc devait créer des apatrides.
Quand est-ce qu'on bannit un citoyen romain ?
En de multiples circonstances, mais je dirais pour généraliser que, sans répondre sur la liste des crimes susceptibles d'entraîner ce bannissement, le bannissement à Rome, c'est la sanction d'un départ en exil pour éviter une exécution capitale. Le sang coule abondamment à Rome et en même temps les Romains ont cette réticence d'aller jusqu'au bout de l'exécution capitale. Cela suscite l'admiration d'un grec comme Polybe, qui observe que lorsque les comices se réunissent pour une cause capitale, c'est-à-dire qui pourrait conduire à la mort du prévenu, en réalité, ils permettent à cette personne de partir en exil, mais alors, lorsqu'il est parti, le prévenu en question fait l'objet d'une sanction de bannissement, donc d'exclusion de la cité, qui se traduit très concrètement donc par ces termes d'interdiction de l'eau et du feu.
L'interdiction de l'eau et du feu. Mais il est encore citoyen lorsqu'il est banni ?
En toute logique, il n'est plus citoyen. Hein, l'expression même « eau et feu » désigne deux éléments dans une représentation cosmique du monde. Et certains poètes, tels Lucilius, IIe siècle avant Jésus-Christ, s'amusent à dire que celui auquel on a enlevé l'eau et le feu est encore vivant, tandis que si le juge vraiment fait preuve de plus grande fermeté, on lui enlèvera aussi la terre et l'air, et à ce moment-là, on l'exécutera. Bref, oui, assurément, l'aqua et igni interdictio est une diminutio capitis, c'est-à-dire qu'elle emporte la citoyenneté du prévenu. On voit mal, on imagine mal, que quelqu'un qui peut se soustraire à une procédure capitale puisse librement circuler en étant toujours citoyen romain, alors même que le peuple a voté son exclusion de la cité. Donc, ils existent, mais les juristes raisonnent peu sur ce non-être.
Est-ce qu'on a une petite idée quand même du nombre que ça a pu représenter ? Bon, on a très peu de sources.
On a très peu de sources. Je crois que sur un millénaire d'histoire romaine, l'aqua et igni interdictio, donc cette interdiction de l'eau et du feu, est attestée quelques dizaines de fois. C'est toujours une procédure qui touche des individus, sauf à une reprise en 17 après Jésus-Christ. Il se trouve que le hasard de la conservation de nos documents nous fait savoir que les astrologues, devins et autres mathématici ont été expulsés de Rome parce qu'ils enduraient l'aqua et igni interdictio et que ceux d'entre eux qui étaient des étrangers, donc qui n'avaient pas le statut de citoyen, étaient exécutés. C'est-à-dire qu'on n'exécute pas le citoyen, on lui fait quitter la cité de force. Donc on crée un apatride.
Donc, une mort civile, une interdiction d'eau et de feu, quelque chose de très grave, même si les sources sont peu nombreuses, on comprend que dès l'origine de la réflexion sur la citoyenneté, au fond, il y a l'hypothèse de déchoir quelqu'un de sa citoyenneté. Jean-Clément Martin, je me tourne vers vous. La Révolution aussi s'est posée cette question-là, parce qu'elle a beaucoup réfléchi sur la citoyenneté, évidemment. Quand est-ce qu'elle s'est posée la question ? Et est-ce qu'on se pose la question de l'apatridie ? Est-ce que le mot existe sous la Révolution ?
Alors, l'apatridie n'existe pas, je ne l'ai jamais rencontré. En revanche, effectivement, la période révolutionnaire se pose obligatoirement la question de savoir qui est citoyen, qui peut le rester, et surtout à partir de 1791, et il me semble que c'est essentiel de noter que c'est de très bonne heure. Dès 1791, la question se pose de savoir ce qu'on doit faire de ceux qui quittent la France contre précisément les institutions qui vont aux frontières et qui menacent en définitive la paix intérieure.
C'est-à-dire le mauvais citoyen.
Voilà. Ou plus exactement, le citoyen qui est traître en définitive à la nation, à la communauté. Et je crois que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est brièvement faire un petit retour en arrière, parce que c'est une question qui remonte pour partie effectivement à l'Antiquité, parce que les souvenirs de l'Antiquité sont toujours présents, mais qui ont été ravivés bien évidemment par Louis XIV chassant les protestants, quand même. Il y a là quand même une question qui est grave et qui demeure toujours pendante, et qui est ravivée par toutes les théories dites du droit naturel moderne ou chrétien, et qui consistent à dire qu'il est nécessaire, pour fonder une société, que les membres de la société adhèrent à la volonté générale. Et donc, que celui qui n'adhère pas à l'ensemble de la communauté est peut-être considéré comme une bête sauvage. Donc, on est là dans une grande tradition, je dis de droit moderne, mais il faut bien l'avoir aussi en tête que dans le droit naturel chrétien, c'est-à-dire au moment de la Révolution, pour faire bref, il y a toute une série de penseurs catholiques qui estiment qu'on ne peut pas être bon citoyen si on n'est pas bon chrétien, mais qu'on ne peut pas non plus être bon chrétien si on n'est pas bon citoyen. Donc cette idée d'unité, d'union entre la communauté et la citoyenneté, la nation et la citoyenneté, est véritablement le trait noué.
Et au fond, alors la question se pose massivement, cette fois on n'est plus à Rome, et on a des sources, la question se pose massivement à quel moment ? Au moment de la guerre ou même un peu
alors,
avant ?
Voilà, c'est ce que j'ai bien dit tout de suite, c'est dès 1791, donc la guerre débute le 20 avril 1792, déjà, grosso modo 6 mois avant, la question s'est posée de savoir ce qu'on allait faire de ces officiers nobles.
Combien sont-ils ?
Alors, c'est difficile à dire. En juin 1791, ils sont à peu près 6 ou 7 000. Mais quand on parlera des émigrés au total, on peut estimer, chiffre minimum, qu'il y en aura une centaine de milliers. Chiffre maximum, sans doute 150. Certaines sources disent 300 000. Mais toutes catégories confondues. Et là, je préférerais ne parler que des nobles ou des soldats quittant la France pour rentrer, en définitive, dans la guerre contre le régime. Alors, révolutionnaire, le mot est un peu fort, en 1791, le roi est toujours présent, comme tout le monde le sait, et même en 1792, c'est encore, jusqu'au 10 août, un régime de monarchique, contre lequel ces gens sont déjà en guerre.
Et donc, ils sont traîtres à la nation,
voilà.
Et donc, ils ne sont plus dignes d'être citoyens.
Alors, oui, et c'est d'une façon quand même très brutale. Alors le roi a réussi en 1791 à bloquer les sanctions contre les émigrés, mais pas toutes les sanctions, puisque à partir d'avril 1792, les biens des émigrés peuvent être confisqués. Donc on est rentré là dans une nouvelle catégorie qui va être progressivement développée et qui est la mort civile. Et à partir d'octobre 1792, donc après la chute de la monarchie, ces émigrés ne sont pas seulement considérés comme des morts civiles, mais à partir d'octobre 1792, tous les émigrés qui seront rentrés ou tous les émigrés qui viendront portant des armes ou une cocarde blanche sont passibles immédiatement de la peine de mort sous 24 heures sans autre jugement.
Ils seront guillotinés ? Certains seront guillotinés ?
Oui.
Les peines sont appliquées ?
Là, les textes seront appliqués. Mais moi, je n'ai pas du tout envie de réhabiliter ces mesures-là, mais seulement rappeler le contexte. À partir d'avril 1792, on est dans une guerre qui est une guerre, contrairement aux guerres traditionnelles, une guerre qui est sans merci. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de compromis entre la République française et les monarchies qui l'entourent. On est véritablement là dans une guerre où il faut au sens strict du mot, vaincre ou mourir. Et je crois qu'il faut vraiment avoir ça en tête pour comprendre, outre ce que j'ai rappelé tout à l'heure, cette espèce d'incapacité juridique à comprendre la dissociation des individus avec la communauté, ce qui existe et qu'il ne faut pas du tout le nier, mais il y a aussi cette contextualisation qui fait que la citoyenneté est assimilée à la nationalité et que toute personne qui n'est pas pour la nation est un traître.
N'empêche que, alors c'est évidemment une déchéance, mais cette déchéance, elle va être, je me tourne vers vous Guillaume Métayer, elle va être revendiquée d'une manière un peu inattendue tout de même par Nietzsche, qui écrit dans les années 1880, au moment du Gai Savoir, « Nous, les apatrides ». Alors on est en plein dans le siècle des nations, et voilà qu'un philosophe, comment ça se dit en allemand « nous, les apatrides » ?
« Wir Heimatlosen ».
Qu'est-ce que ça signifie pour Nietzsche, cette phrase un peu provocatrice pour le moins ?
Oui, alors d'abord il faut dire que Nietzsche était lui-même un apatride. Il a été nommé à l'université de Bâle sans thèse, professeur, à l'âge de 25 ans, et il a perdu sa nationalité prussienne sans gagner la nationalité suisse. Pourquoi ? Parce qu'il fallait 8 ans d'installation en Suisse pour pouvoir devenir citoyen suisse. Et il est parti d'abord s'engager en 1870 dans la guerre franco-prussienne, comme infirmier ou brancardier. Puis il est revenu et reparti en demandant un congé en octobre 1876, congé que lui a donné l'université de Bâle et qui lui a permis, avec un petit pécule, de se promener un peu partout en Europe sans nationalité. Donc il a eu un passeport sans nationalité. C'est une vie d'errance qu'il a menée de la Suisse à la France, Nice bien sûr, en passant par l'Italie, bien entendu Turin où il a eu son effondrement final, mais aussi Venise et Gênes. C'est donc d'abord d'expérience d'une certaine façon que Nietzsche parle quand il dit « nous autres apatrides ». Mais bien entendu cette expression a un sens philosophique avant tout, c'est-à-dire que il s'agit du titre d'un aphorisme du Gai Savoir de la cinquième partie publiée en 1887, et dans cet aphorisme Nietzsche finalement essaye de renvoyer dos à dos deux types de positions, pour dire une de gauche et une de droite pour simplifier. La première, c'est l'humanitarisme des grands idéaux, et au fond Nietzsche considère que les grands idéaux sont des patries idéales, que finalement on est bien au chaud, confortablement, dans de grandes idées, de grandes valeurs, et que nous autres apatrides, nous sommes ceux qui savons nous détacher de ce chez-soi, comme il dit, mais qui est un chez-soi, de l'ordre de l'imaginaire, mais un imaginaire qui réchauffe, si on peut dire. Et de l'autre côté, évidemment, avec toute la subtilité de la construction de ces aphorismes, Nietzsche arrive à ce qui est véritablement être un sans-patrie, un apatride pour lui, c'est évidemment de se libérer, en plein moment de la construction des nations, se libérer du nationalisme ambiant. Et évidemment, on a quelque chose qui est tout à fait typique du deuxième Nietzsche, si on peut dire, c'est-à-dire non pas le Nietzsche wagnérien, mais le Nietzsche qui s'est libéré de Wagner et qui essaye finalement de faire passer dans son œuvre son errance personnelle en empruntant aux auteurs français, aux auteurs italiens, en créant ce qu'il appelle le bon européen, en devenant un bon européen, non seulement apatride, mais au-dessus des patries. Et là, il y a toute l'ambiguïté, en réalité, de ce geste de Nietzsche, parce que ce bon européen, qui est l'héritier de toutes les traditions culturelles et nationales, en un sens, crée aussi une autre patrie. Et cette nouvelle Europe, qu'il est en train de construire, il serait un petit peu trop simple d'y voir une préfiguration de l'Europe que nous avons construite après la guerre. Et trop simple aussi d'y voir probablement une préfiguration de l'Europe qui, heureusement, a échoué pendant la guerre, mais enfin, là, c'est évidemment la question de l'interprétation. Alors, en choisissant de se mettre en scène comme apatride, Nietzsche, en réalité, s'empare de toute une imagerie littéraire. L'imagerie littéraire du juif errant, bien entendu, et l'imagerie littéraire, une imagerie romantique. Et là, je renverrai à un texte peu connu de Nietzsche, qui est un de ses poèmes de jeunesse. Il y a un poème qui s'appelle « Sans patrie », dans lequel précisément Nietzsche se met en scène, enfin son sujet lyrique si on peut dire, comme un cavalier sans patrie. Donc alors il y a le mythe du Hongrois chez Nietzsche, le Hongrois à cheval dans la grande plaine hongroise qui est une espèce d'espace de liberté, de symbole de liberté. Donc en réalité il y a peut-être un geste ambigu, c'est-à-dire la reprise d'un imaginaire romantique supranational libéré des différentes attaches philosophiques et patriotiques, mais dont la direction reste ouverte à notre interprétation.
Merci. N'empêche que Dzovinar Kevonian, cette posture et ce geste extrêmement littéraire, assez beau, hein, évidemment, cette revendication de l'apatridie, va être rattrapée par une histoire tragique qui est celle des apatrides de l'après-Première Guerre mondiale et de la grande fabrique des apatrides qui commence là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans cette Europe de 1919, 1918-19 et qui va faire surgir le mot dans notre vocabulaire?
Alors, il se passe que déjà le mot apatride, c'est-à-dire l'emploi du mot français, se met en place à la fin de la Première Guerre mondiale.
Quand
jusque-là, alors 1918, les traces que l'on a dans la littérature juridique nous permettent de le dater de 1918, mais on pourrait peut-être trouver un texte plus précoce de la période de la guerre, puisque il s'agit de ne plus utiliser le mot qui a été employé tout à l'heure, de Heimatlos, du sans-patrie, donc le mot germanique, pour bien montrer que les Français aussi ont un vocabulaire fourni et qu'ils ne sont pas obligés d'utiliser le mot des Allemands. Donc on est dans le contexte de la Première Guerre mondiale, et c'est à partir de là que le mot apatride va se généraliser, dans le sens non pas de sans-patrie, au sens de la patrie du terroir ou du pays que l'on habite ou que nos parents ont habité, mais dans le sens de sans-État, c'est-à-dire sans nationalité. Alors la Première Guerre mondiale, c'est effectivement un grand tournant, puisque c'est le moment où la question de la patrie devient un problème de masse.
Pourquoi ?
Alors cela se fait pour plusieurs raisons. Il y a d'abord ce qu'on appelle les apatrides de fait, c'est-à-dire que la Première Guerre mondiale, comme vous savez, revoit la plus grande partie des frontières de l'Europe, disloque les anciens empires, notamment l'Empire austro-hongrois, naissent de nouveaux États, et bien de ces dislocations, de ces changements de frontières, de ces mouvements de population, de la guerre et de l'après-guerre, eh bien, il se trouve toute une série d'individus qui soit n'ont pas opté dans les temps. Alors opté, c'était ce qu'il y avait dans les traités de paix, c'est-à-dire que quand quelqu'un, eh bien, après la guerre, devait choisir la nationalité et le domicile où il allait s'installer dans sa nouvelle patrie ou son nouvel état-nation, puisqu'on constitue des états-nations, eh bien, la question se pose de sa nationalité. Il va choisir sa nationalité. On a énormément, on estime, la Ligue des droits de l'homme dit qu'il y a à peu près 100 000 à la fin des années 20 apatrides de fait, parce que ce ne sont pas des lois qui ont fabriqué ces apatrides, mais ce sont les situations juridiques dans lesquelles ils se sont trouvés. Et puis on a ce qu'on appelle les apatrides des jurés, c'est-à-dire ceux qui sont l'objet de déchéances de nationalité, c'est-à-dire de lois ou de décrets, qui vont les faire devenir apatrides. Le premier cas est celui des Russes. Dès 1921, des décrets des gouvernements bolcheviques font que ceux-ci se trouvent dépourvus de nationalité. Et puis le second cas, ça va être celui des Arméniens, à partir de 1923, lorsque la Turquie kémaliste ne va plus vouloir reconnaître ces individus qui avaient la nationalité et citoyenneté ottomane avant, mais l'Empire ottoman a disparu, eh bien, comme citoyens de la Nouvelle-Turquie. Et donc, de fait, ces deux populations vont se retrouver donc apatrides par décret ou par loi, et former, là aussi, plusieurs centaines de milliers d'individus en Europe, mais pas seulement en Europe, et vont poser le problème de cette absence de droit initial. Et l'apatridie est grave dans la mesure où on est dans un monde qui, après la Première Guerre mondiale, généralise le passeport et les visas, qui étaient des mesures d'urgence qui ont été prises pendant la guerre, qui se généralisent par convention internationale, et donc se retrouvent dans ce qu'on appelle le vocabulaire d'aujourd'hui, c'est-à-dire des sans-papiers, c'est-à-dire des individus qui ne peuvent pas passer les frontières, qui n'ont pas d'identité, rien pour attester de leur identité, et donc aucun acte de la vie civile ne leur est permis dans un monde où l'administration moderne se développe de plus en plus.
Des individus sans droit, et auxquels il faudrait ajouter des gens, des individus qui sont dans les pays et qui sont sans patrie simplement parce que, si on peut dire, ils n'ont pas été recensés ou qui n'ont pas été...
Alors l'apatridie, effectivement, on la relie pour ces années, pour l'entre-deux-guerres à la question des réfugiés, puisqu'on va bientôt avoir, si on regarde la chronologie, ben, on a bien sûr les Italiens, puis les Allemands, les Autrichiens, les Espagnols, donc on a tout ce cortège dramatique des années 30 qui ensuite amplifie encore le phénomène. Mais on a également, et si on revoit aujourd'hui les chiffres d'aujourd'hui de l'apatridie, la plus grande partie des apatrides aujourd'hui n'ont jamais quitté leur pays. Ce sont des apatrides de fait, soit qu'ils n'ont pas été reconnus à la naissance, c'est-à-dire que leur état civil n'a pas été établi à la naissance. On a un certain nombre d'états, notamment en Afrique, où il y a vraiment la problématique de l'établissement de l'état civil au départ, et ces personnes n'existent donc pas dans l'état civil. On a aussi tout le problème des problèmes de législation entre états, législation nationale, droit du sol ou droit du sang, qui font que certaines personnes se retrouvent dans un vide juridique et de fait deviennent apatrides. Et donc l'apatridie ne concerne pas que les réfugiés. C'est vrai que le plus souvent, quand on regarde le XXe siècle, on se souvient évidemment de ces réfugiés de l'entre-deux-guerres.
Donc là, on est bien en face de la grande fabrique des apatrides, qui est celle du XXe siècle et qui est celle, évidemment, notamment de l'Europe, mais plus tard du monde, des nations. Alors, que faire de tous ces gens? Quel est leur sort? Quel est le statut qu'on leur réserve? Rome s'est-elle posé la question? Quel exemple peut-on prendre? Est-ce que être citoyen sans citoyenneté, c'est seulement un malheur ou c'est aussi un scandale? Qu'est-ce que c'est un citoyen sans citoyenneté dans l'Antiquité romaine?
Puisqu'il a été question de Nietzsche, je vais vous répondre par la maxime qui est la sienne dans son petit traité « Nous autres philologues, sans idée directrice, ce travail de fourmi serait un tissu de vaines absurdités ». Alors, je vais à l'essentiel. C'est un scandale et c'est toute la difficulté. Le statut d'apatride est à ce point un scandale et à ce point une humiliation. Je pense à Cicéron, évidemment, et au dossier...
Cicéron qui a été banni. Quand?
Voilà. Donc, Cicéron, je le rappelle brièvement, 63 avant Jésus-Christ, s'autorise l'année de son consulat et grâce à un senatus consult ultime, donc, ça aurait été le débat précédent à l'état d'urgence, passe outre l'interdiction de mettre à mort un citoyen sans comparution devant le peuple. Il fait donc exécuter les Catiliniens. Il est rattrapé 5 ans après par son ennemi Claudius, le tribun de la plèbe, et prenant peur, il quitte la ville comme un exilé, comme s'il avait été inculpé et qu'il voulait échapper à une sentence de mort. Et là, Claudius fait voter son bannissement, donc une interdiction de l'eau et du feu. Et l'on comprend très bien, en lisant sa correspondance avec attention, qu'il n'est alors plus rien. Quid enim sum, s'interroge-t-il à un moment donné. La réponse est qu'il n'est plus rien. Ses enfants ne sont plus ses enfants, puisqu'il n'a plus la patria potestas. Ses biens, au-delà de sa maison, et la formule est devenue proverbiale, tous ses biens ont été confisqués. Il essaie de s'arranger pour faire croire que certains esclaves appartiennent à sa femme, parce qu'ils font partie de son patrimoine, ils ont été confisqués aussi. Bref, il n'est plus rien et il craint pour sa vie. Car le banni, donc l'apatride, j'emploie par commodité ce terme, n'a pas le droit à l'hospitium, c'est-à-dire au droit d'accueil qui lui permettrait d'être hébergé, tout simplement, par quelqu'un. Donc il descend la Via Appia, il pense pouvoir s'acheminer vers la Sicile, mais le gouverneur lui refuse l'accès de la Sicile. Il va donc, on connaît l'affaire presque au jour le jour, c'est assez rare pour l'Antiquité où les sources sont en effet peu nombreuses. Il va à Tarente, puis à Brindisi, et là, promettant à un ami de ne pas rester plus de quelques jours pour ne pas lui faire courir de risques, il s'embarque pour Dyrrachium et pour les côtes albanaises. Bon. Et ce n'est que parce qu'une loi a été votée pour son retour.
Combien de temps dure l'errance de Cicéron?
À peu près. Donc c'est 58, c'est quelques mois, les dates sont connues au jour près, quelques mois
d'errance
entre donc Rome, la Calabre, les Pouilles, l'Albanie. Il doit s'éloigner encore plus loin parce que Claudius, entre-temps, a sorti le bannissement et la déchéance de citoyenneté d'une zone d'exclusion de 400 000 ou 500 000 Romains qui l'empêche d'aller à Athènes. Donc, durant quelques mois, sa correspondance est dense car il demande à être rappelé. Les centuries, donc le peuple réuni en centurie, vote son rappel et ce n'est que à cette condition qu'il peut rentrer. Toute la difficulté est que dans les discours du retour d'exil, Cicéron ne prononce même pas le mot exilium pour dire quelle a été sa condition. Il camoufle le fait d'avoir été exilé et il ne parle que de son départ, de son voyage et jamais d'exil. Et ce n'est que lorsqu'il enrage face à Claudius qu'il le traite de ereptor civitatis, donc d'arracheur de citoyenneté, pour dire ce qui a été vraiment sa condition. Très logiquement, puisque le bannissement est donc la sanction matérielle de quelqu'un qu'on n'a pas pu exécuter. C'est la formule de Fussel de Coulanges, hein, disant que dans l'Antiquité, il faut se représenter que l'apatride, celui qui n'a pas de cité, n'est plus rien. Il a abandonné les cultes de sa cité, il a abandonné ses proches, il faut relire Ovide aussi, qui lui-même n'a pas été déchu de sa citoyenneté, mais qui est parti en exil. sous une autre forme d'exil, hein, pour comprendre l'extrême douleur que cela pouvait représenter dans le monde antique.
Un citoyen sans cité n'est plus rien. Est-ce que c'est la même chose en 1791-1792? Qui sont ces émigrés qu'on a privés de leur citoyenneté française, qui sont français encore, sans être citoyens? Ils sont quoi? Des citoyens au rabais? Ils sont quoi?
Alors on peut commencer en disant que effectivement, il faut jamais non plus oublier que la citoyenneté qui est accordée, enfin la citoyenneté qui est le signe distinctif des Français vivant alors après 1792, c'est malgré tout une citoyenneté qui est très complexe et très clivée, puisqu'on sait bien, pour dire les choses brièvement, que les femmes ne sont pas des citoyennes.
Donc, après tout, on pouvait être française sans être citoyenne.
Voilà, et donc on voit bien la difficulté qu'il y a là, lorsqu'on définit la citoyenneté pendant la Révolution, d'accorder... je dirais l'idéal attaché au mot citoyen, aux réalités, aux habitudes de pensée et aux problèmes liés au contexte, aux problèmes liés à la guerre. Personne n'accepte, il faut le dire simplement, dans les assemblées révolutionnaires, à part quelques députés seulement, personne autrement n'accepte que les femmes puissent être des citoyennes. Rappelons-le quand même. Bon. Donc maintenant, ce qui n'empêchera pas, disons-le aussi, que les femmes émigrées qui rentreront illégalement seront exécutées.
Elles ne sont pas citoyennes, mais elles peuvent être guillotinées pour leurs idées politiques.
Absolument. L'homme de Gouges avait eu un mot terrible là-dessus. Et de fait, effectivement, on n'accorde pas ni la citoyenneté, ni la parole aux femmes, mais elles ont bien le droit de monter sur l'échafaud. Donc, ça,
C'est une reconnaissance comme une autre.
C'est une reconnaissance comme une autre qui correspond, je pense là, à une mentalité française et des problèmes très compliqués de reconnaissance des hommes du tiers-état vis-à-vis des femmes de la noblesse ou de la bourgeoisie. On rentre là dans un autre aspect. Alors, pour en revenir maintenant à ces émigrés, dont Cicéron aurait très bien pu être un des exemples, c'est qu'ils vont traverser presque pendant 10 ans l'Europe à la recherche d'une place, d'un statut. Il y en aura très peu, finalement, qui accepteront de s'intégrer à un autre pays. Ça existera en Allemagne. Un prince, le prince de Condé, deviendra un général dans l'armée russe. Mais la nostalgie de la France est évidente pour tous ces individus, puisque on les verra demander après 1800 la possibilité de revenir en France. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, il y aura là, en revanche, si on se met dans la position de la Révolution face à ces gens-là, il y aura eu pendant 10 ans un refus systématique de leur accorder la moindre reconnaissance. Ils sont partis, ils sont rentrés dans la guerre contre la France, et on voit bien là que ce qui se noue pendant cette période, c'est que cette citoyenneté française, qui était initialement une citoyenneté idéologique, une citoyenneté idéale, va devenir à partir de 1792-1793 une citoyenneté enracinée véritablement dans la nationalité et je dirais dans le nationalisme, ce qui fait le lien tout à fait avec le 19e siècle, c'est-à-dire que la guerre oblige à prendre position ces individus qui sont partis éventuellement par idéal, parce que il tenait tout simplement à la continuité monarchique et il se sentait sujet du roi et pas citoyen français, eh bien se retrouvent là non pas seulement opposants politiques, mais véritablement des ennemis de la patrie. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ces ennemis de la patrie, ils ont toutes les raisons possibles pour être détestés, et ils sont dangereux, c'est vrai, ils ont toujours des liens avec les ennemis de l'intérieur, c'est vrai, et puis il faut rentrer dans des considérations qui sont moins nobles, les biens des émigrés sont vendus, et il est évident qu'à partir du moment où un certain nombre de Français révolutionnaires ou pour rester en France ont acheté des biens des émigrés, ces gens-là n'ont évidemment aucune envie de voir les émigrés dont ils ont pu acheter des biens très peu chers revenir. Et ça sera une question qui va empoisonner véritablement la politique française pendant tout le XIXe siècle et qui commence à être résolue à partir de 1825. Donc on est là dans un complexe de choses qui fait qu'effectivement ces morts civiles, ces émigrés, finalement on ne sait pas quoi en faire. Et pendant 30 ans, jusqu'en 1825, on est dans cette situation bizarre de morts civiles et de gens qui risquent effectivement de mourir s'ils reviennent et qui dépendent en définitive à partir de 1798, 1799 et surtout 1800 quand Bonaparte prend le pouvoir, qui dépendent du bon vouloir du prince de leur accorder ou non la possibilité de rentrer. C'est le fait du prince. Il rentre bien sûr en masse en 1814 et surtout en 1815, quitte à être déçu parce que Louis XVIII ne leur accorde pas non plus la reconnaissance qu'ils étaient en droit d'obtenir. Et c'est 1825, avec le grand débat sur ce qui s'appelle le milliard des émigrés, pour faire bref, qui clôt juridiquement, en quelque sorte, cette question-là. Juridiquement, mais pas dans les mentalités. Ça durera très longtemps.
Oui, c'est-à-dire qu'au fond, il n'y avait pas d'autre statut possible. Ce qui va encore complètement changer dans les années 20, je me retourne vers vous, Zovinar Kevonian, c'est que, pour la première fois, après tout, là, on est passé dans un monde où il existe une communauté internationale, où il existe une société des nations, et où on va réfléchir à l'idée d'un statut pour ces gens sans droit, pour ces individus sans droit. D'où est venue cette idée-là ?
L'idée est venue d'un état de fait, qui était celui d'abord des réfugiés russes, et de cette question de ces réfugiés russes qui étaient tout autour de cet ex-empire russe, qui se trouvait dans des situations de fortune, dans des conditions extrêmement éprouvantes et difficiles, dans des camps de réfugiés, et qui n'avaient pas forcément la possibilité justement de se déplacer, puisqu'ils n'avaient pas ce fameux passeport international qui va devenir, qui va se généraliser dans les années 20. Donc on a un vrai problème de désengorgement des ce qu'on appelle aujourd'hui des pays de premier asile, mais en réalité c'était bien cette situation-là. Et il y a également la tribune qu'ont les organisations représentatives de ces réfugiés russes qui vont demander à la SDN, au conseil de la SDN, de trouver une solution. Et donc cette pression des organisations privées, alors qu'on appellerait des organisations communautaires, c'est-à-dire représentant ces communautés réfugiées, est extrêmement importante. Et ce sont des gens qui étaient encore des diplomates russes quelques années auparavant. C'est-à-dire
c'est le cas de Nansen ?
Alors ce n'est pas le cas de Nansen, mais alors Nansen va être l'homme du fameux passeport Nansen, oui, c'est le mot qui est connu. En réalité, ce qui se passe, c'est que la Société des Nations 1921 décide de mettre en place, de créer un haut commissariat pour les réfugiés, alors le premier du nom, au commissariat de la Société des Nations pour les réfugiés russes, c'est bien pour eux qu'est mis en place ce commissaire, et le haut commissaire qui est nommé est un homme qui à l'époque était célèbre, un Norvégien, Fridtjof Nansen, et il était connu pour avoir été un grand explorateur du pôle Nord, donc pas du tout pour ses activités en faveur des apatrides. Explorateur, diplomate, également quelqu'un qui avait œuvré pour l'indépendance de la Norvège, donc une grande personnalité, disons, internationale de l'époque, et qui se trouve donc nommé haut commissaire, mais c'est un haut commissariat sans moyens, voilà, on lui donne ce petit mandat. Mais il va se retrouver évidemment épaulé avec ses organisations de réfugiés, notamment cette diplomatie russe en exil, puis bientôt rejointe par les Arméniens en exil également, mais également les associations de réfugiés ukrainiens, géorgiens et d'autres encore, des Russes et des Juifs russes, puisqu'on a, on a les deux problématiques, et qui vont faire pression, se saisir de la SDN comme tribune pour demander, réclamer une solution à cette situation de l'apatridie. Et en 1921, il crée un statut. Alors on l'appelle le passeport Nansen, et ceux qui l'avaient, voilà, des personnes qui ont eu ce passeport d'apatride, l'appelaient aussi passeport Nansen. En réalité, il n'a jamais donné les mêmes droits qu'un passeport national. C'était son vrai nom, c'était certificat d'identité et de voyage, mais il avait ce mérite extrême d'attester de l'identité des individus. et de leur permettre de voyager. Alors voyager, c'est un bien grand mot, mais en tous les cas, de se déplacer d'un pays à l'autre, parce que le problème de l'apatride, et c'est pour ça que personne ne l'aime en général, et la littérature juridique est très négative dans les années 20 à leur égard, c'est qu'on ne peut pas le renvoyer chez lui. C'est ça le problème essentiel de l'apatride. C'est que vous ne pouvez pas l'expulser, puisqu'il ne peut pas rentrer légalement dans un autre pays, puisqu'effectivement, aucun pays n'est responsable de lui, en quelque sorte. Et c'est le problème qui est posé, notamment par la justice des pays d'accueil, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait si jamais, il commet un délit. Ou comment peut-on attester de sa loyauté? Finalement, que fera-t-il en cas de guerre? Voilà, il y a toujours ce soupçon qui pèse sur l'apatride. Bref, avec ce document, d'ailleurs c'est un document sur lequel toute la famille est inscrite. Quand on regarde les passeports d'Anzen, c'est un document sur lequel il y a également les enfants. Donc c'est un document familial qui permet donc à ces apatrides de pouvoir certifier de leur identité, de pouvoir acquérir des biens, de pouvoir rester en justice, etc., etc.
Donc redonne des droits aux individus qui n'en avaient plus.
Mais comme dit Hannah Arendt, la nationalité, c'est le droit d'avoir des droits. Voilà, et ce passeport est destiné à cela.
Oui. Combien ont été les gens qui ont bénéficié de ce passeport qui n'en était pas tout à fait un?
On ne pourrait pas dire, les chiffres sont à prendre avec beaucoup de précautions, mais on sait que plusieurs centaines de milliers de personnes en ont bénéficié. Puisque, après 1933, quand affluent les réfugiés d'Allemagne, notamment les réfugiés juifs à partir des persécutions nazies, puis l'Anschluss de 38 qui va être vraiment qui va marquer un grand exode évidemment des juifs autrichiens, et bien le passeport d'Hansen va être élargi accessible aux réfugiés d'Allemagne et d'Autriche.
Alors ça ne va pas empêcher évidemment les drames de la Seconde Guerre mondiale, les massacres et la Shoah. On pourrait dire que la figure de l'abandonné par excellence, peut-être dans nos imaginations, c'est quand même la figure du juif et celui qui revient des camps. Alors Guillaume Métayer, vous proposiez de nous parler d'Imre Kertész qui invente au fond un autre concept. Est-ce que vous diriez qu'Imre Kertész est un apatride ou a réfléchi sur l'apatridie?
Alors d'abord, Imre Kertész était un traducteur de Nietzsche. Donc il y a une transition entre la première intervention et la deuxième. Et bien entendu, c'est la question de la déportation est au cœur de son œuvre. Il a écrit « Être sans destin » en 1975, donc 30 ans après sa propre déportation. C'en est le roman. C'est un roman qui, sans être une autobiographie, tout en étant évidemment un récit d'une expérience. Et ce qui est intéressant peut-être chez Kertész, c'est qu'il refuse finalement de centrer son roman sur la question de l'apatridie ou de l'appartenance aux différentes patries ou communautés victimes des persécutions nazies. En réalité, Kertész, un peu d'une certaine façon comme Nietzsche, comme cette littérature, fait de l'apatridie au second degré et transforme l'apatridie en un symbole. Ce symbole, on pourrait dire qu'il est résumé par le passage du Heimatlos au Schicksallos, c'est-à-dire du sans-patrie au sans-destin. Justement. Et le sans-destin, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est justement ce déporté qui n'a en réalité plus de patrie, bien entendu, mais qui a encore moins que plus de patrie, on pourrait dire qu'il est victime d'une sorte de déchéance d'humanité, plus que de déchéance de nationalité. Et si Kertész utilise cette idée de destin, c'est parce qu'il essaye de penser l'événement dans le contexte de l'existentialisme français. Et en réalité, Être sans destin est écrit comme une sorte de reprise de L'étranger de Camus. Ça se voit au début du roman, par l'incipit du roman, où en réalité, malheureusement, la traduction française dit « je n'ai pas été au lycée ce matin », mais en fait, Kertész écrit « aujourd'hui, je n'ai pas été à l'école », c'est-à-dire, ou plutôt, si vous voulez, ou plutôt, j'y suis allé, mais... C'est-à-dire que c'est en fait une réécriture du début de L'étranger. Aujourd'hui, maman est morte, ou hier, je ne sais pas. C'est le même genre de structure où l'écrivain se reprend. Il y a des termes barbares pour et grecs, mais pas latins, pour décrire ce genre de structure. Donc en fait, ce qui intéresse Kertész, ce n'est pas tellement l'apatridie, ce n'est pas tellement l'appartenance à des patries et la déchéance par rapport à cette appartenance. Ce qui l'intéresse, c'est le totalitarisme. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il explique comment il a recompris ce qu'il avait vécu en 1944 de l'intérieur de ce qu'il vivait dans la Hongrie communiste de son temps, qui dit-il, a été pour lui une mnémotechnique. Donc il n'a finalement retrouvé le fil d'un totalitarisme par l'autre, hein, ce qui finalement est quelque chose d'un petit peu étrange, hein, d'une certaine façon. Et ce que décrit Cartès, ce n'est pas tant l'apatridie que d'une aliénation existentielle qui se fait pas à pas, ce qu'il appelle le pas à pas, et qui amène la victime à d'une certaine façon, absolument atroce et tragique, à collaborer avec le bourreau totalitaire quel qu'il soit, par son désir de survivre. Et ça, c'est probablement ce qu'il y a de plus tragique dans cette peinture d'une apatridie au second degré qu'est l'être sans destin. La destinité, si on traduit littéralement le terme hongrois, c'est « adestinité » avec un alpha privatif, si on peut inventer un barbarisme pareil.
Alors, on a beaucoup dit ces temps derniers, à propos des débats actuels sur la déchéance de nationalité, qu'il était impossible de fabriquer des apatrides. On est dans un débat qui s'appelle « la grande fabrique des apatrides ». Est-ce que c'est vrai, Zovinar Khevonian ? Est-ce qu'on peut fabriquer des apatrides ? Est-ce que la France peut ? Éventuellement, en inscrivant la loi dans sa constitution.
Alors, la France est à partie d'une convention. Il y a eu des conventions sur l'apatridie après la Seconde Guerre mondiale, puisqu'évidemment la Seconde Guerre mondiale n'a pas résolu, et au contraire, le nombre d'exilés, de réfugiés, de déportés, enfin, a créé évidemment un nombre d'apatrides important après 1945. Et en 1954, on a la première convention sur l'apatridie. La France a signé cette convention. Cette convention était destinée déjà à définir ce phénomène juridique particulier et à faire en sorte que l'apatride puisse avoir le même régime que l'étranger, c'est-à-dire ne pas avoir un régime juridique moins favorable, et de prévoir que tout apatride pourrait avoir un certificat d'identité et de voyage. Donc c'est les mêmes mots que l'entre-deux-guerres, hein, la réalité en réalité traverse le siècle. Et donc les apatrides pouvaient obtenir ce document qui leur permettrait, comme les autres apatrides de l'entre-deux-guerres, d'avoir un statut. Voilà, en 54, la France a signé cette convention. Il y a eu une deuxième convention en 1961, convention internationale, que la France n'a jamais ratifiée. Cette convention était destinée à réduire le nombre d'apatrides. Le but, c'était qu'on arrête de créer de nouveaux apatrides, soit pour cause de législation nationale qui ne concorde pas, soit parce que des États pouvaient avoir une politique de déchéance spécifique sur des individus ou de déchéance collective. Et donc la France n'a pas signé, dans le contexte de 1961, sur lequel je ne reviens pas ici, cette convention. Elle ne l'a toujours d'ailleurs pas signée ni ratifiée. Mais il est vrai que la France, d'ailleurs dans les débats qu'il y a eu, la question se posait bien de ne pas pouvoir créer de nouveaux apatrides et de n'appliquer cette clause qu'en cas de binationalité, c'est-à-dire la loi actuelle française est celle-là, hein, celle de 2006, elle prévoit des restrictions à la déchéance, et l'une de ces restrictions, c'est bien que la personne ait une autre nationalité et que ne se trouve donc pas apatride.
Ce qu'a redemandé le Sénat
Absolument, ce qui est conforme à la loi française en vigueur, tout simplement. Oui. Mais il est vrai que l'Angleterre, récemment, a changé sa législation et l'a durcie en la matière, et donc l'Angleterre, désormais, peut créer des apatrides.
Oui, donc ça n'est pas impossible. Yann Rivière, comment réagit l'historien du droit romain face au débat actuel ?
En romain, donc je répondrai que aux yeux d'un romain, c'est absolument impossible, même si, comme je l'ai dit, la déchéance de citoyenneté existe, donc l'apatridie existe. En fait, lorsqu'ils veulent les définir, les juristes disent, l'expression a été employée tout à l'heure, que ce sont des citoyens sans cité assurée. Quives, nullius, cartae, civitatis. Voilà, pour essayer de les définir. Et ce n'est que à l'époque byzantine, lorsque le droit romain est compilé, que les Byzantins barrent cette expression et veulent simplifier les choses en disant « apolides, ce sont des apatrides ». Donc, pour répondre à la situation actuelle en France aujourd'hui, pour un Romain, serait sans doute impossible. La deuxième chose, de mon point de vue, d'historien de Rome, je ne vois pas comment on peut penser l'apatridie indépendamment de la peine de mort. C'est-à-dire que si l'apatridie n'est que une suspension ou un arrêt de la mise à mort au moment où elle doit être faite, sans quoi on crée du vide, ce qui pour un juriste, indépendamment de toute considération humanitaire, est déstabilisant.
Jean-Clément Martin.
Alors, le révolutionnaire ou contre-révolutionnaire que je suis dirait bien qu'on se trouve devant précisément l'impasse posée par la définition de la citoyenneté pendant la Révolution, puisque cette citoyenneté qui se voulait, il faut bien le rappeler quand même, une citoyenneté en France à vocation universelle, puisque lorsque on commence à parler des citoyens à partir de 1789, il n'y a pas de clause restrictive lorsque on n'est pas français, lorsqu'on ne parle pas français, et il y a eu au moins un député anglais ou américain, Payne, qui a été député français en 1792-1793 sans parler français, avec un traducteur. Je laisse à la salle la possibilité d'apprécier une pareille situation. Donc là, la citoyenneté était, avec tout ce que j'ai dit précédemment, malgré tout, éventuellement très ouverte. Elle a buté sur la guerre, elle a buté sur les habitudes, elle a buté sur le nationalisme, elle a débouché sur quoi ? Sur la xénophobie, sur le rejet de l'étranger. C'est-à-dire que l'exemple de la Révolution et de l'Empire, c'est objectivement là un échec à penser la citoyenneté et un échec à intégrer dans une communauté, une société, des individus qui ne sont pas tout à fait en accord avec l'ensemble de la société. Et c'est vraiment un moment extrêmement grave de ce point de vue-là, puisque ça rappelle la fragilité des lois et ça rappelle aussi la difficulté à nouer dans un contexte toutes les tensions qui existent dans un pays.
Merci pour cette belle conclusion. Merci à tous les quatre, donc, de nous avoir aidés à réfléchir sur ce qu'est, au fond, la citoyenneté à travers ce que peut en être quelquefois la déchéance. Merci. Merci. Je crois qu'on a quand même quelques minutes pour donner la parole à la salle. Le droit à quelques questions. Je crois qu'un micro circule.
Je suis très étonnée que vous n'ayez pas mentionné le fait que le maréchal Pétain a demandé la déchéance de nationalité. Voilà, ma question est là.
Oui, bien sûr. Alors, nous aurions pu parler, il y a beaucoup de sujets dont nous n'avons pas parlé. Il y a évidemment des procédures de dénaturalisation sous la France de Vichy et évidemment directement demandées par Pétain, comme vous le rappelez fort justement. Une historienne qui s'appelle Claire Zalk prépare actuellement, enfin est en train d'écrire un livre sur cette question. Elle aurait pu être là aussi, ce n'est pas le cas. Ce livre va paraître, je crois, à l'automne prochain. C'est vraiment, c'est une très belle étude sur un cas particulier qui, évidemment, aurait eu aussi toute sa place dans le débat. Vous faites très bien de le rappeler. Merci. Monsieur ?
Je voulais juste poser la même question que madame. Je ferai un complément. Le décret Crémieux a été supprimé en Algérie par les autorités de Vichy. Et ce n'est pas une apatridie créée pour une sanction qui aurait été commise par des gens, mais simplement le fait du prince, si je puis dire.
Oui, vous avez raison aussi, bien évidemment, de rappeler ça. La France n'est pas pour la première fois de sa carrière, si je puis dire, devant le cas de la déchéance, enfin de proposer une déchéance de citoyenneté ou de nationalité, comme nous l'a rappelé Jean-Clément Martin. Vous voulez ajouter quelque chose, Jean-Clément Martin ?
Oui, il me semble que vous avez raison de le rappeler, parce que si on remonte dans l'histoire, il y a un cas qui vient d'être étudié par une historienne américaine travaillant en France à propos de ce qui se passe en Guyane dans les années 1790 et qui fait de la Guyane une terre d'accueil, si j'ose dire, des relégués partis de France dont on ne sait plus quoi faire. Qui vont ensuite aider des bagnards qui, en quelque sorte, n'en finiront jamais de purger une peine parce qu'ils ne peuvent de fait pas revenir en France, mais avec un phénomène assez aggravant auquel on ne pense pas forcément, qui est qu'on va installer en Guyane des Noirs qui ont été pris sur des bateaux faisant la traite illégale, donc dans les années 1830, dont on ne sait pas quoi faire, qu'on mais en Guyane, et qui sont littéralement, alors eux, apatrides, si j'ose dire, à vie et sur plusieurs générations. Donc, on voit bien que là, ce phénomène que vous décrivez, en l'occurrence, qui était un phénomène politique, a été, au début du 19e siècle, et ça a duré très longtemps pendant le 19e siècle, un phénomène aussi qui est mal connu, mais qui a malheureusement marqué une région française.
L'allusion à la Guyane m'amène à poser la question de savoir quelle fut la situation des esclaves des colonies, entre le moment où l'esclavage fut aboli, puis rétabli sous la Révolution, puis rétabli par Bonaparte, avant d'être de nouveau aboli en 1848. Étaient-ils des apatrides ?
Oui, la question des esclaves est une question très douloureuse, mais qui rentre dans le cas que j'évoquais tout à l'heure, cette citoyenneté à différents niveaux. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement les citoyens de plein exercice, il y avait en même temps des citoyens qu'on a appelés initialement des citoyens passifs, mais aussi des citoyens privés des droits, et notamment des droits électifs. Les femmes, les domestiques étaient en quelque sorte de droit dans cette catégorie de citoyens subalternes, et c'est vrai que les esclaves pratiquement étaient dans cette situation-là en quelque sorte automatiquement. Sans compter que, alors, si on le dit aussi autrement, lorsque ces esclaves sont libérés, et ils sont libérés dans quelques colonies seulement, bien sûr à Saint-Domingue, dans des conditions qui sont des conditions extrêmement périlleuses, c'est une guerre civile abominable, et je dirais personne à ce moment-là n'exerçait de droit de citoyenneté ordinaire. Donc c'est vraiment quelque chose là qui est un vide très fort, qui marque complètement aussi les mémoires et qui correspond à cette incapacité aussi de penser de la part des révolutionnaires la façon dont on allait libérer des esclaves. Il faut rappeler que pour la quasi-totalité des révolutionnaires, la libération des esclaves devait être progressive pour précisément les faire arriver à un état de citoyen. Les faits, on en a décidé autrement, mais on est là dans une situation de vide objectif, de vide contextuel.
Une autre question ?
Je reviens un peu faire un lien avec le débat précédent qui évoquait les guerres de religion. Et malheureusement, il n'y a personne qui représente les anciens régimes. Je pense que vous allez pouvoir tous répondre.
Un bon geste.
Et je voulais évoquer quel était le statut réel de sujet de Sa Majesté des protestants pendant la révocation de l'édit de Nantes.
Jean-Clément Martin va représenter l'Ancien Régime en faisant un peu violence.
Oui, ça ne posera pas de problème pour la fin de l'Ancien... J'aime pas le mot Ancien Régime, là on dira de la monarchie millénaire française. Bon, ce qui se passe avant donc 1789 est extraordinairement compliqué, parce que tous les habitants de ce qui s'appelle la France sont les sujets du roi, avec malgré tout quelque chose qu'il faut jamais oublier, c'est que selon le lieu d'appartenance, cette sujétion n'est pas la même. Et le lien au roi n'est pas direct, il peut être tout à fait indirect. La rupture provoquée par la Révolution, c'est ça. C'est d'un seul coup, il n'y a plus de lien personnel. On rentre dans une communauté où toutes les personnes présentes sont des citoyens théoriquement identiques les uns aux autres, ce qui n'était sûrement pas le cas avant. Et tout le monde sait que un Alsacien n'avait pas les mêmes droits qu'un Breton ou qu'un habitant de l'Île-de-France. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut garder en tête. Alors pour les protestants, mais la question ne se pose pas, c'est que les protestants ne sont pas des sujets. C'est-à-dire que soit ils sont intégrés jusqu'en 1788, ils n'ont pas d'état civil, ils ne sont pas enregistrés dans les cahiers paroissiaux, et la reconnaissance des protestants en tant que protestants comme sujets du royaume de France, c'est 1787, alors qu'auparavant, ils ne sont pas reconnus en tant que tels. Et vous avez raison de poser cette question-là. C'est-à-dire que jusqu'en 1765, les protestants qui affichaient leur protestantisme étaient poursuivis, et que jusqu'en 1765, les hommes étaient envoyés aux galères, et dans les cas les plus graves, mais ils étaient nombreux, et les femmes étaient éventuellement murées dans la tour de Constance d'Aigues-Mortes. C'est-à-dire que c'est 30 ans avant la Révolution. C'est pour ça que je suis très prudent quand on parle des difficultés à ériger la citoyenneté pendant la Révolution française, parce que c'est vrai que la définition de la citoyenneté dans la Révolution française aboutit à une impasse, je l'ai dit, je le maintiens, mais on part de très loin, et il y a ce très lourd passif qui est présent dans toutes les mémoires, et c'est quelque chose qui est vraiment un obstacle absolu à penser l'unité nationale. C'est pas un débat théorique, on est au contraire dans des problèmes immédiats et des souffrances qui sont toujours présentes.
Merci à tous. Je crois qu'il faut clore là le débat. En tout cas, merci pour votre attention. Merci à tous les quatre.